Les deux orphelines, deuxième partie, chapitre 11. L'aveugle écouta encore pendant quelques instants, haletante, succombant à l'angoisse. Les menaçantes paroles de Jacques Frochard ne lui avaient pas laissé de doute. Le dernier espoir qu'il avait soutenu s'était envolé lorsque Jacques avait formulé une menace contre son frère, surpris en flagrant délit de compassion pour la prisonnière. Elle comprenait qu'elle ne devait plus attendre aucun secours de ce brave garçon qu'on allait surveiller étroitement. « Dans 2 jours, » répétait-elle, « dans 2 jours. Eh bien, lorsqu'ils reviendront, je serai morte. Dieu m'aura rappelée à lui. Était-ce bien la peine, après tout, de regretter cette lamentable vie qu'elle avait menée jusqu'alors ? Que de larmes répandues, que de douleurs accumulées dans cette existence cependant si courte encore. L'infortunée s'absorba tout entière dans le souvenir de son passé. Elle en parcourut par la pensée chacune des cruelles étapes. C'était d'abord la mort de son père adoptif. Elle se revoyait, accompagnant en pleurant son sauveur que l'on portait au cimetière et que suivait une foule recueillie. Elle marchait derrière le cercueil, à côté d'Henriette, et comme celle-ci, elle portait le voile noir des orphelines. Puis, plus tard, elle se retrouvait auprès de Madame Gérard, dans cette promenade à travers les bois et les blés, faisant gaiement la chasse aux libellules. C'était un jour de joie passagère, et c'était le dernier. Ce jour-là, en effet, elle avait perdu subitement la vue. Elle se souvenait enfin de la mort de Madame Gérard. Elle avait pleuré comme on pleure une mère, cette sainte femme qui avait réuni, sous sa bénédiction d'agonisante, les 2 êtres qu'elle laissait abandonnés sur terre. Et lorsqu'elle s'était agenouillée, à côté d'Henriette, sur cette pierre où reposaient Gérard et sa femme, lorsqu'elle avait senti que la main de sa compagne éplorée saisissait la sienne pour une fraternelle étreinte, oh, ce jour-là, elle avait reporté sur l'amie qui devenait sa sœur, son guide dans la vie, tous les sentiments de tendresse et de reconnaissance qu'elle avait voués à ses bienfaiteurs. Et voilà que ce dernier appui, ce guide si affectueux, si tendre et si dévoué, venait de lui être arraché et gémissait comme elle, peut-être dans quelque prison. Les heures s'écoulaient lentes et douloureuses, et la pauvre Louise, bien que torturée par la faim, attendait, ferme et résolue, le terme de ses souffrances et le terme de sa vie. Ah, la Frochard s'y connaissait, en matière de supplice à infliger pour vaincre la résistance d'une victime. Elle savait que la faim qui annihile les forces physiques laisse le patient désarmé contre la colère de son bourreau. Elle pensait, l'ignoble mégère, que la lutte se prolongerait peut-être, mais que la réalisation de sa criminelle combinaison ne tenait qu'à une question de temps. Mais elle avait, dans son infernal calcul, compté sans l'énergie, sans la force morale d'une enfant. Elle ne pouvait se douter, cette femme sans entrailles, qu'il existât des âmes créées pour le martyr, qui résiste à toutes les souffrances, brave tous les supplices et s'envole radieuse sans avoir faibli. Elle ignorait, la misérable, en prononçant le terrible verdict qui condamnait Louise, que cette chaste et pure créature demeurerait inflexible devant la mort. Et la faim trompait ses prévisions. Mais le hasard, ou peut-être la providence, qui ne voulait pas que la douce jeune fille se laissât mourir, sembla seconder les projets de l'odieuse furie. Tout un jour venait de s'écouler pour la pauvre résignée au milieu de tortures sans nom. La faim déchirait ses entrailles, la soif brûlait sa gorge desséchée. La fièvre faisait bouillonner avec force tout le sang de ses veines et le délire allait envahir son cerveau lorsque l'ange des désespérés vint frôler de son aile le grabat de cette martyre résignée. Un calme soudain se fit en elle. Ses yeux, qu'une fièvre ardente tenait fixes et tout grands ouverts, se fermèrent doucement et l'enfant s'endormit. Elle se vit parcourant les rues de Paris au bras de la Frochard. L'idée lui était venue, puisqu'on lui ordonnait de chanter pour attirer l'attention des passants, de choisir une chanson bien connue de leur enfance à elle et à sa sœur. Cette chanson qu'elle avait redite tant de fois en travaillant. « Oh, ma tendre Musette, Musette, mes amours !» Chaque jour, dans son rêve, elle parcourait quelque nouveau quartier, répétant toujours sa chanson et criant après chaque couplet. Henriette, m'entends-tu? C'est moi, Louise, ta sœur. M'entends-tu? Henriette, m'entends-tu? Et voilà qu'un matin, une croisée s'ouvrait tout à coup. Un cri répondait à son appel. Un cri de bonheur et de délivrance. Louise, ma bien-aimée, me voilà, j'accours. Et cette voix, elle la reconnaissait, c'était celle d'Henriette. Alors, elle s'arrachait des bras de la mendiante, et le cœur bondissant, les mains tendues vers sa sœur, elle poussait l'exclamation de joie folle que la vue d'une voile à l'horizon arrache au naufragé. Et elle s'écriait à son tour. Henriette, sauve-moi, sauve-moi. Lorsque ses yeux se rouvrirent, c'est peut-être un avertissement du ciel, pensa-t-elle. Elle se dit qu'elle n'avait plus le droit de fermer l'oreille aux appels de son corps, aux prises avec les spasmes douloureux de la faim. Car la souffrance se déclarait plus forte que sa résolution, l'effarement et la terreur plus forts que son courage. L'espérance lui avait suggéré la pensée de vivre, et la vie en elle criait maintenant contre les tortures volontairement acceptées. Après l'interminable journée, l'aveugle eut comme l'instinct que la nuit avait commencé, et que cette nuit serait peuplée pour elle des hallucinations qu'enfante la faim dans les imaginations en délire. Alors, aussi, elle pensa que l'affrochard allait revenir, que ce reptile se glisserait de nouveau auprès d'elle, qu'elle sentirait le contact de cette main calleuse et l'étreinte de ses doigts noueux, durs comme des griffes, qu'elle entendrait cette voix rauque vociférer de nouvelles menaces. L'épuisement succédait au spasme. Après la souffrance aiguë, l'anéantissement prolongé. Après l'exaltation du cerveau, le sommeil de la pensée. La patiente tomba inerte sur le grabat, dans une sorte de somnolence des sens. Il y a de ces soulagements léthargiques dans le drame de la faim. Pendant l'heure qui suivit, Louise n'eut pas conscience de ce qui avait pu se passer dans la masure. Elle n'avait pas entendu l'affrochard qui, frappant à la porte du grenier, lui avait crié. « Eh ben, la duchesse, a-t-on suffisamment digéré le déjeuner? Et veut-on souper un brin ?» Elle n'eut pas conscience de ce que la hideuse créature lui crachait à travers la porte d'horribles imprécations. Elle ne sut pas que Pierre avait tenté l'impossible en essayant d'attendrir la vieille hyène en fureur et que, pour toute réponse, le malheureux garçon avait été odieusement menacé de la colère du chérubin. Vaincue par l'épuisement, elle était demeurée immobile, anéantie sur le grabat, et l'esprit assoupi dans les ténèbres de la syncope. Et la nuit avait continué lentement, cruellement, l'œuvre de la journée sur cette nature, frêle et délicate, soumise à une épreuve au-dessus des forces humaines. Lorsque la douleur eut eu raison de l'engourdissement que l'aiguillon de la faim eut provoqué le terrible réveil, Louise entra subitement dans la période où les nerfs se révoltent contre l'abstinence, où tout le sang proteste avec des violences extrêmes de pulsations aux artères, où la respiration se saccade dans les poumons sans air, où des tumultes bruissent dans le cerveau. Dans ces heures de supplice, chaque minute ajoute une douleur nouvelle à 100 autres douleurs. Dans ces heures d'angoisse, chaque seconde marque une étape de l'interminable martyre. Que de sanglots étouffés dans le cœur qui se serre, que de larmes versées, qui ne parviennent pas à noyer le désespoir, accomplissant implacablement son œuvre. Et à présent que le sommeil a fui sans retour, à l'engourdissement des muscles, à la prostration, a succédé la fièvre qui met le délire dans l'esprit et du feu dans la poitrine. C'est cette fièvre de l'inanition qui consume Louise, après cette nuit d'horreur, et martèle ses tempes de 1000 coups assourdissants. Et le jour venu, le martyre continue pour l'infortunée que son bourreau n'a plus interrogée comme la veille, estimant que le désespoir et la souffrance physique n'avaient pas encore suffisamment broyé la victime. L'affrochard était parti dès l'aube, chassant du taudis le rémouleur, pour l'envoyer au travail dont la rémunération devait tomber dans la poche de Jacques. Elle avait quitté la masure, sachant qu'elle y laissait sa proie à l'abri d'une tentative du dehors. Elle s'en était allée grommelant de sinistres paroles à l'oreille de Pierre pour enlever à celui-ci toute envie de s'occuper de l'aveugle et persuader qu'au retour, elle verrait la victime se traîner à ses pieds et demander grâce. Et pendant ce temps, Louise attendait, à genoux, la tête appuyée à cette porte du cachot, écoutant si l'implacable geôlière ne venait pas. Elle était là, prêtant l'oreille à cette voix intérieure qui lui envoyait sans cesse le nom d'Henriette comme une suprême ressource dans cette effroyable agonie. Elle était là, vaincue, et n'attendant plus que le retour de l'ennemi acharné pour lui crier dans un dernier accès de désespoir. « Pitié, pitié, je vous obéirai. Emmenez-moi, je vous suivrai, je tendrai la main. Vous avez vaincu mon corps, et Dieu n'a pas voulu prendre mon âme. Emmenez-moi, pour que je mendie ce pain que vous me refusez, parce que je ne peux pas vous le payer. » Elle attendait maintenant, prête à capituler devant la mendiante. Mais l'épreuve n'avait pas assez duré. Après la défaite de ses sens, dans cette terrible lutte contre la faim, il était réservé à Louise de se morfondre dans une mortelle attente. Il lui était réservé, à cette malheureuse, de vider jusqu'à la lie le calice d'amertume. C'était elle qui maintenant souhaitait de voir arriver le moment où elle ferait acte de soumission. C'était la victime qui avait hâte de demander grâce à son bourreau. Et la mégère n'était pas là pour triompher au spectacle de cette humiliation qu'elle avait voulu et préparée. Le supplice continuait plus terrible, plus insupportable, depuis que la patiente espérait la délivrance. Elle se poursuivait, cette épreuve inouïe, alimentée par l'impérieux besoin de vivre qui s'imposait à présent à la désespérée, depuis que dans son esprit aux abois, bourdonnaient sans cesse ces mots « Louise, ma sœur bien-aimée, me voilà, me voilà ». Elle avait voulu prier, mais son esprit s'égarait dans des incohérences de pensée. Les phrases restaient inachevées sur ses lèvres fiévreuses. La somnolence, ou plutôt l'anéantissement, arrivait au milieu de la prière. Et cependant, le corps luttait contre l'épuisement. Pendant ces interminables heures, l'aveugle se morfondit à attendre le retour de la mendiante comme un signal de délivrance. L'horrible supplice avait ainsi achevé son œuvre sur la volonté de Louise lorsque la porte du taudis grinça tout à coup sur ses gonds.